BFM Business Partenaire.
BFM Stratégie. Avec Frédéric Simotel. Sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va parler du quantique. Peut-il casser Internet? Vous savez, aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir si, bien à terme, les pirates pourront utiliser du quantique pour déchiffrer des données, alors d'époque, mais aussi pour revenir en arrière et déchiffrer des données qu'ils ont peut-être volées aujourd'hui. Donc, on appelle ça le chiffrement post-quantique. Et puis, il y a une actualité, puisque Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, il en a fait un des points forts de son discours d'ouverture des assises de la sécurité qui avait lieu avec tous les professionnels de la cyber il y a quelques jours à Monaco. Et derrière, on a ce rapport du BCG qui révèle que c'est une menace concrète à l'horizon 2025. Les ordinateurs quantiques pourront casser les protocoles cryptographiques actuels qui protègent nos données bancaires, nos échanges confidentiels ou encore les infrastructures critiques. Donc voilà, on va parler de tout ça avec notre expert Jean-François Bobier. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, partenaire au BCG, spécialiste de l'informatique quantique. Oui, c'est une menace sérieuse aujourd'hui. D'ailleurs, je disais Vincent Strubel, il a même donné des dates. Il a dit 2027, il faudra qu'on ait des solutions, que l'administration, enfin tout ce qui est le secteur public, ait des solutions labellisées post-quantique. Et puis en 2030, ce sera obligatoire.
Alors en effet, qu'est-ce qui motive tout ça? C'est le fait qu'on a des ordinateurs quantiques de plus en plus performants. On a des roadmaps maintenant en indisibilité jusqu'à presque 10 ans, qui ont été publiés par des grands fabricants comme IBM. Et quand on tient un tout petit peu la courbe, on voit qu'à partir de 2035, on va commencer à atteindre une zone où c'est probable qu'on puisse attaquer donc le chiffrement qu'on utilise pour la cryptographie sur Internet, qui s'appelle un chiffrement à clé publique. Donc en fait, par exemple, là, on s'échange, je vous donne une clé, et après, vous me répondez, mais que en utilisant ma clé, vous chiffrez l'échange avec ma clé. C'est ce qu'on appelle un échange à clé publique.
Oui.
J'ai donné ma clé à tout le monde pour l'entendre, mais il n'y a que moi, par contre, qui peut décoder le message que vous m'aurez envoyé. Ça, c'est le chiffrement à clé publique. Et les ordinateurs quantiques, ils ont un algorithme, ça s'appelle l'algorithme de Shor, qui permet, à partir de cette clé que je vous ai donnée, retrouver ma clé privée et décoder
vraiment des chiffres, et tout ça par leur capacité de calcul évidemment.
Exactement.
Beaucoup plus puissante.
Exactement.
Et on retrouve ça partout, c'est entre les États, l'espionnage, la cybercriminalité.
Absolument. La cryptographie à clé publique, elle existe depuis 40 ans. C'est un algorithme qui s'appelle RSA, qui existe depuis 40 ans, qui pose les fondations d'Internet.
Oui.
Quand vous avez une petite clé sur votre browser qui vous indique que la transaction est sécurisée, c'est ça que ça veut dire, c'est que ça a été établi par une clé. Ça sert aussi à faire des certificats, donc à valider les transactions. Ça sert à plein de cas d'usage, et en fait c'est tellement utilisé qu'on sait même pas par où commencer d'ailleurs pour faire la migration.
Alors justement, pour faire cette migration, pourquoi on s'y intéresse aussi aujourd'hui? Parce que quand on parle quantique, on a l'impression que on part dans les 2035, 2040, 2050. Bon, là je rappelle ce discours de l'ANSSI, Vincent Strubel, c'est 2027-2030, mais c'est ça, les entreprises doivent s'y intéresser aujourd'hui, Jean-François.
Alors la menace, elle est en 2035. Ça, c'est à partir de là où on va commencer à pouvoir casser les clés. En revanche, compte tenu du fait que ça fait depuis 40 ans qu'on utilise de la cryptographie qui est stable, qu'elle est partout dans à peu près 20% du parc applicatif d'une entreprise, dans ses échanges avec ses fournisseurs, ses échanges avec ses clients, etc. Imaginez, c'est un énorme Mikado. Vous allez devoir commencer à enlever des pièces pour remplacer les pièces qui sont faibles par des pièces qui sont fortes. Ça va mettre du temps. On sait par expérience que dans des cas de transition précédente, il a fallu au moins 10 ans.
Oui.
10 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est assez court pour faire une migration de cette ampleur. Bah,
surtout que parfois, on voit l'accélération de ces technologies. On voit l'IA aujourd'hui, donc on peut se dire 10 ans, ça pourrait être compressé un peu.
Enfin, oui et non. Enfin, il y a vraiment deux temps. Il y a le temps de l'ordinateur quantique.
Oui.
Et pour nous, c'est
là on est
c'est 2035.
Un peu plus long,
Mais après, il y a le temps qu'il faudra aux professionnels de l'informatique de prendre les anciens protocoles, de les trouver où ils sont, de trouver où sont les anciens certificats, de faire les changements qui sont nécessaires pour remplacer les anciens protocoles par les nouveaux, parce que ça tombe bien, on en a des nouveaux qu'on a trouvés. Et ça mettra 10 ans. Et c'est ça qui mettra du temps. Que les ordinateurs quantiques arrivent ou pas, c'est.
Et en gros, en application critique, c'est quoi? On a un point de vue sur les portails bancaires, tout ça. C'est 10% à peu près qu'on a chacun.
On pense qu'en moyenne, dans une entreprise, à peu près 20% des applications sont critiques. D'accord. En moyenne. Ça dépend des industries. Alors évidemment, si vous êtes dans la banque, ce sera plus. Si vous êtes dans la santé, c'est plus puisque vous avez des données médicales, etc. Et puis, il y a un deuxième phénomène. On parlait tout à l'heure du temps de migration, mais vous avez très bien mentionné un autre truc tout à l'heure aussi. C'est qu'il y a des gens qui pourraient se dire, bah là, les échanges qu'on a en ce moment, je vous ai donné une clé, etc. Je peux pas décrypter aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais enregistrer notre conversation.
Ouais, et puis
plus tard, je vais trouver la clé privée à partir de la clé publique.
Voir si mes données ont été chiffrées par des pirates, ou dire j'espère les récupérer un jour.
Voilà, exactement. Donc je peux les décrypter. Bon, on pense, et on le mentionne dans le rapport, on pense pas que c'est à la donnée. Enfin, on pense pas que les groupes criminels organisés vont faire ça parce que c'est quand même, ça demande beaucoup de capacité de stockage. Mais par contre, les agences de renseignement, oui, ça peut les intéresser. Donc du coup, certains acteurs doivent s'y inquiéter maintenant. C'est pour ça que dans le service public, par exemple, il faut commencer très tôt. Ouais.
Et alors, autre question que l'on peut avoir, donc au-delà de l'aspect technologique, il y a cet aspect coût. Est-ce qu'on se dit, j'ai une PME, une ETI, est-ce qu'il faut que je sois forcément une grande entreprise? Est-ce que c'est cher, cette migration?
Alors ça, c'est vraiment des points qui étaient importants qu'on traite dans notre dossier, parce qu'un des feedbacks qu'on avait des gens avec qui on avait ces échanges, c'est de me dire, ok, c'est bien, mais je vais voir ma direction générale, je leur dis que c'est urgent, je leur dis qu'il faut le faire, mais je n'arrive pas à avoir de l'argent. Et en fait, on a fait un effort dans notre papier, on a regardé, par exemple, combien a coûté la migration au bug de l'an 2000, qui est assez proche conceptuellement. Vous savez, quand les ordinateurs pensaient qu'en l'an 2000, ils allaient passer en 1900. On a regardé aussi des migrations de crypto antérieures, on est arrivé à un chiffre qui dit qu'il faudrait dépenser entre 2,5 et 5% d'un an de budget informatique. Ce qui représente des sommes assez importantes. Par exemple, pour mes clients qui dépensent à peu près, mettons, un milliard d'euros d'informatique, il faudrait mettre 25 millions sur la table, sur 10 ans, pour faire cette transition.
Mais c'est moins cher si on le fait aujourd'hui que si on attend.
Exactement. Si on s'y prend tôt, on a le temps, d'orienter les nouvelles applications, les changements, les nouvelles solutions, et puis de faire sortir les anciennes applications. Si on attend la veille, ça va coûter plus
cher. Et puis avec tous les risques d'attaque, et on l'a vu, on en a parlé dans une émission cette semaine sur les attaques sur Jaguar Land Rover, sur la bière Asahi, enfin sur l'industriel japonais Asahi là dans les breuvages, et ça leur coûte des dizaines de millions de dollars par jour de non-production de sites qui produisent pas. Techniquement, on est prêt? Est-ce que d'ores et déjà aujourd'hui, là j'entends cette chronique, je me dis, il faut que je sois post-quantique, est-ce que je sors je vais voir mes fournisseurs et je peux avoir des choses labellisées?
Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un problème qui a été anticipé de très longue date. L'organisme américain qui s'appelle NIST, qui est National Institute for Standards et Technology, a sélectionné 4 algorithmes qui sont considérés comme résistants et robustes. Ils sont proposés, utilisables. Le NIST a aussi donné des dates qui s'appliqueront à tout le monde, c'est-à-dire pour avoir le droit d'avoir la fameuse clé sur votre Internet. Donc 2030, c'est le moment où les algorithmes actuels sont considérés comme obsolètes, mais on peut encore s'en servir. Et 2035, c'est interdit, il faut être uniquement sur les nouveaux algorithmes.
Ah oui, on sera vraiment dans quelque chose.
Et ils sont disponibles, il y a des implémentations, et il y a des entreprises, d'ailleurs françaises, on peut parler de CryptoNext et autres, qui proposent des implémentations de ces algorithmes. Donc c'est possible, les algorithmes sont disponibles. La grosse difficulté, ça va être dans l'inventaire de ce qu'on a aujourd'hui.
Oui.
Et de savoir qu'est-ce qu'il faut changer, le petit Mikado.
Quel petit je remplace.
Voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui, je crois que on est encore faible dans l'usage.
Aujourd'hui, il y a peu de. Enfin, il y a quelques mesures qui permettent de le savoir. Par exemple, on sait qu'il y a seulement 9% des sites internet de taille raisonnable qui implémentent aujourd'hui ces standards. Sachant qu'aujourd'hui, les navigateurs les appliquent déjà. Par exemple, si vous utilisez Chrome, vous avez déjà le. En tout cas, de votre côté, vous avez déjà la possibilité pour supporter les cryptos.
D'accord.
Il faut que votre site bancaire le fasse aussi.
Et j'ai vu dans l'étude, on parle aussi de, il faut être crypto-agile.
Alors, crypto-agilité, c'est quoi? C'est cette idée de dire, ça fait 40 ans qu'on a de la chance, finalement. 40 ans que RSA, donc l'algorithme qu'on utilise aujourd'hui, personne n'a trouvé de faille, ça marche. On aurait pu ne pas avoir de chance. Si on pourrait imaginer qu'un mathématicien fou trouve une faille et que demain on ait un problème. La crypto-agilité, c'est l'idée de se dire ces algorithmes post-quantiques, on ne sait pas s'ils sont stables, on ne sait pas si quelqu'un ne va pas trouver une faille, c'est des maths, hein.
Oui.
Ils ont trouvé des problèmes de lattice, donc c'est des problèmes de géométrie, on ne sait pas, et donc il faut se préparer à ce qu'il y ait potentiellement une deuxième migration. Donc on dit à nos clients, si vous quitte à faire la migration une fois, gardez votre inventaire,
oui,
pour... mettez, enfin, soyez prêts à...
Remettez-le à jour et puis soyez prêts
à... Parce que si jamais demain c'est pas stable et qu'on trouve d'autres attaques, bah, du coup, ça vous coûtera moins cher, vous pourrez le faire plus vite.
Un dirigeant d'entreprise là, qui écoute cette session BFM Stratégie avec vous, Jean-François Bobier, et qui veut se préparer pour 2035, c'est quoi c'est cette cartographie qu'il faut faire, c'est prioriser les systèmes critiques, enfin, c'est quoi les 3-4 conseils que vous lui donnez?
Alors, un, il faut dégager un budget pluriannuel.
Oui.
Il faut pouvoir dépenser de l'argent parce que ça va coûter de l'argent. Deux, effectivement, il faut faire un inventaire de ce qu'on a. À la fois en termes d'application et de système, mais aussi en termes de certificats, puisque c'est avec les certificats qu'on va signer des choses. Et il faut aussi regarder les interactions, notamment avec nos fournisseurs et nos clients. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Puis une fois que ça, c'est fait, faut définir un plan de migration, et après, il faut l'exécuter.
D'accord. Et on a les compétences qu'il faut aussi dans ce domaine, parce que là, j'imagine, enfin, au moins former les équipes aussi autour de ça, c'est important.
Oui. Alors, les compétences existent parce que c'est pas, enfin, c'est de l'informatique standard. Il y a pas, enfin, c'est quantique dans la mesure où la menace vient d'un ordinateur quantique. Par contre, les algorithmes qui sont proposés sont des logiciels, des binaires, que tout le monde a l'habitude d'utiliser. Ouais. C'est pas ça qui est difficile. Par contre, c'est là où c'est peut-être un petit peu difficile. C'est qu'on n'a pas l'habitude. C'est vraiment la première fois qu'un pilier aussi fondamental est mis en cause.
Ouais.
Et on n'a pas, on l'a jamais vraiment remis en cause.
Mmh. En tout cas, une chose est sûre, c'est agir dès maintenant pour réduire les coûts futurs, que ce soit les coûts d'installation, mais aussi les coûts de risque de piratage, qui là peut coûter très cher. Là, on chiffre en centaines de millions de dollars. Donc, plus une mise à jour tardive, plus ce sera complexe, mais plus une mise à jour tardive, plus les risques sont importants. Merci, Jean-François Bobier, d'être venu parler de tout ça. Je rappelle, vous êtes partenaire au BCG, spécialiste de l'informatique quantique. Et donc, oui, il faut s'intéresser à ce chiffrement post-quantique. Les produits existent, il y a des labels qui existe, donc intéressez-vous-y. Merci beaucoup Jean-François, à très bientôt
pour
une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.